que vous arrivez à entendre mieux qu'hier? Bien, quoi, procède.
Bien,
Le sujet de ce soir porte sur une controverse qu'il y a chez les commentateurs de la Mishnah dans le Pirkei Avot, en particulier entre le Maharal et Maïmonide, au sujet de la théorie des miracles. Et cette controverse porte sur la Mishnah 6 du 5e chapitre des Pirkei Avot, que nous, cette Mishnah, nous l'étudierons un peu en détail. Et je voudrais d'abord rattacher le sujet à la préoccupation générale de l'étude de cette semaine. Vous arrivez à entendre? Bon, ça va mieux? Et alors, je rappelle brièvement, nous allons étudier un sujet de théologie théorique, donc assez difficile du point de vue, disons, du maniement des concepts, mais j'essaierai de simplifier, et bien entendu, après l'exposé, vous aurez la parole pour éclaircir tel ou tel point qui serait resté obscur le cas échéant. Et il va s'agir du sujet, le sujet général, c'est la théorie des miracles. Donc nous aurons à avoir un certain nombre d'introductions pour nous approcher du sujet proprement dit. Mais en particulier, nous étudierons une controverse qui existe dans le commentaire du Maharal sur la Mishnah des Pirkei Avot que nous étudierons dans le texte, avec Maïmonide. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, si j'ose dire, d'abord les définitions générales et aussi rattacher le sujet à la préoccupation de l'ensemble du séminaire de cette semaine. Enfin, le sujet général, comme vous le savez, c'est Pessah. Et je reprendrai très brièvement quelques points de comparaison qui sont apparus déjà hier entre ce qu'a représenté Pessah comme événement dans l'histoire du monde par rapport à ce que la Torah dit de l'état du monde à partir du commencement, à partir de Bereshit, à partir de l'origine. Si la question des miracles se pose à nous en tant que problème de théologie, c'est essentiellement, je crois, par rapport au récit que la Torah en fait, ou d'une façon générale la Bible. C'est le fait qu'il y a des récits de miracles et qui dans le contenu posent un problème à la foi du croyant par rapport à la Bible en général, que la question se pose au niveau de la théologie. Si nous n'avions pas ces récits de miracles dans la Bible, bien, peut-être que, ceci est une hypothèse, mais c'est pour un peu éclairer le sujet, peut-être que le problème du miracle en tant que tel ne ferait objet de foi que pour celui qui en serait capable d'expérience, d'en avoir l'expérience. Il y a d'ailleurs, du point de vue de l'expérience religieuse en général, selon la tradition biblique et la tradition du judaïsme en particulier, un certain nombre de données qui n'ont pas été érigées par les théologiens comme, si vous voulez, articles de foi, pour ne pas employer le terme de dogme, parce qu'il y a là une expérience que l'on ne peut comprendre, on ne peut saisir la portée, que si, littéralement, on l'a expérimenté par soi-même. Et par conséquent, non seulement proposer, mais parfois imposer à la conscience une donnée dont la conscience ne serait pas capable d'identification ou d'en avoir l'expérience, ne peut pas être considéré comme un acte de foi qui serait sine qua non de l'appartenance à une certaine identité, dans notre cas l'identité Israël. Je vous donne un exemple en passant, ce n'est pas du tout le sujet que nous étudierons, mais par exemple, la notion de Gilgul, que l'on traduit, c'est d'ailleurs très mal traduit, mais c'est le seul mot dont on dispose, que l'on traduit par réincarnation. Et il n'y a pas de doute que c'est une donnée qu'utilisent très souvent les sages de la tradition juive, et pourtant la croyance au Gilgul ne fait pas objet de foi à un niveau sine qua non, et l'explication qui en est donnée, c'est parce que seuls ceux qui seraient dans ce cas seraient capables de comprendre de quoi il s'agit, de telle sorte de pouvoir poser cette notion comme proposée à l'adhésion ou au refus. Parce que finalement, le problème serait très grave, le fait de risquer de prendre acte d'une perte d'identité d'Israël par rapport à une notion que l'esprit auquel on s'adresse ne serait pas capable d'identifier. Est-ce que vous comprenez la difficulté qu'il y aurait là? Or, ce n'est pas le cas, par exemple, pour la donnée des miracles. Et pourquoi essentiellement parce que nous avons les récits de la Torah qui en parlent. Et l'objet de cette analyse sera d'essayer de mettre en évidence le fait que la Torah parle d'une époque de l'histoire du monde qui n'est pas celle où nous vivons. Et nous avons d'ailleurs des repères historiques très précis que je rappellerai tout à l'heure. Le récit de la Torah concerne un temps de l'histoire du monde qui n'est pas celui dans lequel nous vivons a posteriori de la clôture du canon biblique, comme nous disons. Si vous voulez, nous allons partir de cette première équation très simple, c'est que, selon l'enseignement de la Bible, le temps de la prophétie et le temps des miracles, c'est la même période dans l'histoire du monde. Et à partir du moment où le temps de la prophétie a été clos, corollairement, le temps de l'expérience directe, expérimentale, si j'ose dire, de la représentation d'un monde à l'intérieur duquel le miracle n'est pas seulement un acte de foi, une idée, une croyance, mais une réalité expérimentable, que ce temps est aussi clos. Il y a un parallèle entre le temps des Nissim, le temps des miracles, et le temps de la Nevoa, le temps des prophéties. Nous allons prendre un peu, si vous voulez, ce principe comme ligne de force de cette analyse. Cela pourra peut-être nous permettre tout à l'heure d'essayer, de tenter de résoudre en tout cas de diminuer l'écart des positions qu'il y a entre la position, en tout cas au niveau intellectuel, de Maïmonide d'une part, et d'autre part du Maharal à ce sujet. Bien, d'abord, une définition très claire, qui doit être simple pour pouvoir être claire, c'est que nous devons accepter ces deux concepts, les lois naturelles d'un côté, le miracle de l'autre, comme étant deux concepts positifs, pris au sérieux l'un et l'autre. Et pour la raison suivante, si nous disons que le miracle n'est qu'une apparence, que c'est qu'une certaine manière de se présenter de la loi de la nature et qui, dans l'apparence ou dans l'illusion, apparaît comme l'exception à la loi, et que, à surcroît de connaissances, disons même techniques ou scientifiques entre guillemets, ferait comprendre qu'en réalité le miracle était quelque chose de naturel, à ce moment-là, le récit de la Torah, dans son pshat, dans son texte donné à la lecture, serait un piège. Par conséquent, une position de ce genre est très difficile. Et premièrement, dans la cohérence dans laquelle nous nous trouvons, il faut prendre au sérieux que lorsqu'on parle de Nissim, que lorsqu'on parle de miracle, il s'agit bien, dans la pensée du texte, d'une rupture de la loi de la nature. Sinon, nous parlons d'autre chose, nous parlons d'autres formes d'intervention de Dieu lui-même, mais à travers le jeu des lois naturelles, il y a providence, il y a Ashgaha, mais il n'y aurait pas Nes, il n'y aurait pas miracle. Dans le sujet qui se pose à nous, il s'agirait d'un miracle dont la notion serait prise au sérieux, c'est-à-dire véritablement suspension, brisure de la loi de la nature telle que notre représentation expérimentale habituelle à laquelle nous sommes habitués. D'un autre côté, la notion des lois de la nature doit être aussi prise au sérieux, et pour une raison encore très simple, c'est que s'il n'y a pas des lois de la nature, alors le miracle qui est censé être la rupture de la loi de la nature ne serait pas miracle. Eh bien, nous allons reprendre donc la cohérence du récit de la Torah par rapport à ce problème dès l'origine. J'aurai donc à me référer une fois de plus à quelques analyses que nous avons déjà eues hier. C'est à propos du récit de la création. Je crois vous avoir dit déjà, peut-être un peu rapidement, hier, que l'objectif didactique, pédagogique, si vous voulez, l'objectif d'enseignement du premier chapitre de la Genèse, c'est de nous expliquer la nature réelle, l'état réel du monde dans lequel nous nous trouvons. En effet, les plus grands des théologiens ont posé la question suivante. Lorsque la Torah nous dit que le monde a été créé, elle sait très bien qu'elle emploie elle-même une notion qui ne sera pas compréhensible par la raison humaine. Et cela aussi doit être pris au sérieux. Si les plus grands des commentateurs du texte biblique et les plus grands des théologiens, et j'ai ici en mémoire notamment Nachmanide, nous dit en toute lettre dans son commentaire que la notion de création est un objet de foi parce que la raison humaine est incapable de la comprendre, cela n'est pas pour rien, ce n'est pas simplement une parole pieuse que nous avons là, c'est un enseignement positif qu'il faut prendre au sérieux, puisqu'effectivement la raison humaine ne peut pas expérimenter et ne pourra jamais expérimenter par définition, comme nous allons le voir, ce que implique cette notion de création, c'est-à-dire, comme on dit dans l'expression française, ex nihilo, ou en hébreu, yesh me'ain, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, vraiment rien, aïn, le néant, et qu'il apparaît l'être. Ce passage du néant à l'être, nous sommes incapables de l'expérimenter, puisque par définition, nous sommes a posteriori de l'être du monde qui est déjà apparu au commencement, et par conséquent, la raison, dans toute sa positivité, dans toute sa valeur, d'ailleurs d'autre part, sera incapable d'interpréter une notion qui renvoie à une expérience dont elle ne peut rien savoir par définition, puisque toute la pensée humaine fonctionne dans la cohérence de la pensée biblique. Toute la pensée humaine fonctionne a posteriori, après cet instant de commencement, et jamais il ne pourra être expérimentable. Par conséquent, il faut prendre au sérieux le fait qu'une telle notion est un objet de foi et non pas un être de raison, et non pas un objet de raison. Et il y a là d'ailleurs, du point de vue de la pédagogie traditionnelle, il y a là un piège à éviter. Ce piège consisterait à faire croire ou à laisser croire qu'une notion comme celle de la création est rationnelle, alors qu'en fait elle ne l'est pas. Et inévitablement, l'esprit auquel on aura communiqué cette fausse pédagogie, un jour se réveillera et s'apercevra qu'il croyait à une illusion. L'illusion de croire qu'une telle donnée renvoie à une donnée rationnelle. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas comprendre. Mais les forces intellectuelles ou spirituelles qui sont mises en jeu, les fonctions spirituelles qui seraient mises en jeu pour comprendre ce que veut signifier ce terme, de cette notion de création, ne ressortent pas du tout de l'analyse rationaliste, en tout cas, du fonctionnement de la raison. Il faut une information, d'autre part, pour comprendre de quoi il est parlé, mais l'esprit humain, laissé à ses propres forces, la raison fonctionnant par elle-même, ne peut arriver qu'à une contradiction, puisqu'entre l'être et le néant, il y a la contradiction absolue par définition. Or, la Torah sait qu'en employant ce terme de « au commencement, Dieu a créé le monde », la Torah sait qu'elle emploie un terme qui, très rapidement, va devenir incompréhensible à l'homme. Et elle sait qu'elle s'adresse, dans son texte mis par écrit, elle sait qu'elle s'adresse à des raisons, à des consciences qui ne comprendront pas ce que signifie cette notion. J'ai dit tout à l'heure qu'elle est inexpérimentable et donc non rationnelle. En réalité, il faudrait nuancer. Je vais simplement donner une suggestion, une indication qui peut nous faire comprendre que l'on peut comprendre. Mais malgré tout, cette compréhension n'est pas au niveau rationnel. C'est-à-dire, d'une part, la notion inverse peut être comprise, parce que, semble-t-il, on l'expérimente. La notion inverse, c'est une néantisation de l'être, le fait que l'être puisse disparaître. Et cette expérience-là, on peut la voir. Chaque fois qu'il y a une mort, on a expérience du contraire de ex nihilo, c'est-à-dire l'être qui se néantit. Et ça nous renvoie d'ailleurs ça nous invite à faire la découverte corollaire qu'il y a aussi donc dans l'expérience du monde dogma, enfin je veux dire quelque chose qui peut être exemple de ce qu'est la création. C'est une naissance qui est exactement l'inverse de la mort. Au moment d'une naissance, eh bien il apparaît un être qui n'était pas là. Et donc, il y a bien là, si vous voulez, quelque chose de l'ordre de la création. D'ailleurs, le langage garde cela, puisqu'on dit « procréer » pour dire « faire venir un enfant au monde ». Mais, malgré tout, il faut faire un effort pour dépasser l'illusion de ce qu'un corps aurait engendré un corps, c'est-à-dire « yesh meyesh », un être qui viendrait d'un être précédent, pour découvrir vraiment que l'être dont il est parlé, lorsqu'on parle d'un enfant à sa naissance, n'a strictement rien à voir avec le corps qui lui sert de véhicule, et qu'il y a l'apparition à notre monde d'un être, d'une réalité qui n'était pas là, et qui est tout entier lui-même, quelle que soit d'autre part, la nécessité de l'engendrement des corps par les corps pour servir de véhicule à cette présence qui est l'être dont on parle lorsqu'on parle de l'apparition d'un enfant. Mais ceci pour dire qu'on peut comprendre, mais pas à la manière du raisonnement rationnel qui n'arrivera jamais à tirer l'être du néant puisqu'il y a une contradiction absolue. Voilà, déjà par un biais de cet ordre, les commentateurs ont voulu nous rendre sensibles au fait que si la Torah nous a raconté le récit de la création, c'est qu'elle avait en vue un enseignement important à nous donner. Et dans tous les cas, c'est un principe de méthode très important. L'enseignement dévoilé à partir de telles notions qui ne peut être comprises que par initiation d'autre part, par une autre information que la simple lecture, l'exégèse finalement se ramène à une lecture, eh bien, a toujours une portée morale. Tous les commentateurs ont voulu insister sur ce fait que si la Torah nous a confirmé, dit, rappelé, tout en sachant que philosophiquement cela deviendrait incompréhensible, en sachant à qui elle parle aux hommes, et comme j'ai dit précédemment, dont la raison ne pourra jamais maîtriser une contradiction de ce genre, eh bien, c'est pour enseigner une valeur d'ordre moral qui est véhiculée par cet enseignement métaphysique. Et cette valeur d'ordre moral, elle a été récapitulée par les sages de la tradition d'Israël de la manière suivante. C'est pour nous faire comprendre que l'être que nous possédons, nous l'avons reçu de quelqu'un d'autre. Que l'être que nous possédons nous a été donné. Et que c'est cela que signifie le terme de « créer » pour l'utilisation de la vie spirituelle. Parce qu'au niveau de sa signification philosophique et métaphysique, nous sommes devant un acte de foi. À la limite, il n'est pas nécessaire de comprendre le processus métaphysique ou philosophique du créer pour avoir lu et entendu ce que la Bible voulait nous dire. Il faut comprendre la portée de cet enseignement, c'est-à-dire de découvrir que l'être que nous possédons nous a été donné. Avoir un créateur, savoir que l'on a un créateur, c'est en fait contre cela que cela signifie. Et on comprend par là qu'effectivement, cette notion de la foi religieuse, que notre monde est créé, que notre être est donné à nous-mêmes qui l'avons reçu, c'est le fondement de la morale. C'est si vous voulez, la première vertu, la première découverte d'Abraham, qui savait qu'il avait un créateur, ça a été le fondement même, les fondations, si j'ose dire, de la conscience morale dans l'histoire humaine. Mais, et Nahmani nous donne cette indication, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'enseignement de Maïmonide dans le Guide des Égarés, c'est surtout pour nous faire comprendre le Shabbat. C'est-à-dire, l'objectif du récit, du premier récit de la Genèse, c'est sa conclusion, c'est-à-dire le récit du Shabbat. Et c'est là que je reprends très brièvement l'analyse que nous avons déjà eue hier, de la manière suivante. Le monde dont le récit biblique parle pendant les six jours du commencement, c'est le monde de la Bria, c'est le monde de la création. Un monde créé, c'est-à-dire qui porte avec lui l'évidence qu'il a un créateur. Et comment porte-t-il avec lui l'évidence qu'il a un créateur? C'est dans le fait qu'il n'y a pas ce que nous, dans notre monde, dans le monde de notre représentation, nous nommons l'ordre des lois de la nature. Dans le monde des six jours, et cela se dégage à première lecture du récit, du texte, dans le monde des six jours, tout change de jour à jour. Et nous avons les mêmes formules qu'il enseigne et qu'il indique, et Dieu dit qu'il y est, de point ouvrir les guillemets, qu'il y ait autre chose que ce qu'il y a. Le monde du deuxième jour n'est pas le même que le monde du premier jour, qui n'est pas le même que celui du troisième, du quatrième, jusqu'au sixième jour. Tout change perpétuellement, sans arrêt, avec comme seul critère la décision, la volonté du Créateur. C'est un monde qui est encore en façonnement, si j'ose dire, pas en gestation, ça renverrait à une toute autre philosophie, mais un monde en façonnement littéralement, Yetzira, comme les prophètes disent, comme une glaise dans la main d'un potier. Et dans ce monde qui change constamment, s'il y avait un homme pour se le représenter, ce monde-là, alors il saurait avec évidence qu'il y a un créateur, puisque quelqu'un agit et quelqu'un fait, et ce qui se fait, ce qui est agi, se perçoit dans le changement. Mais il n'y avait pas d'homme pendant les six jours de la Genèse. Puisque, comme vous le savez, le récit nous montre que l'homme apparaît dans le monde à la fin du sixième jour. Et les deux choses sont liées. Puisque, selon la cohérence du texte de la Torah, dès que l'homme apparaît, c'est le dernier verset du récit de l'œuvre du sixième jour, dès que l'homme apparaît, alors la Torah nous dit que Dieu cesse de façonner, d'intervenir, en tant que créateur en tout cas, et dans l'instant même de la fin du sixième jour, Erev Shabbat, dans le vocabulaire talmudique, retenez cette expression, dans le Erev Shabbat, au moment de la fin du sixième jour, c'est la veille, Erev, mais ça veut dire le soir, l'instant qui commence le jour septième, eh bien, le monde est en quelque sorte figé dans l'état où il se trouve par l'arrêt, Shabbat, par la cessation de l'activité du Créateur. Et les deux choses sont liées. Ça veut dire que l'histoire de l'homme dans le monde ne peut commencer que dans un monde stabilisé dans ce que finalement nous appelons la nature. Alors il en résulte comme implication, c'est que le monde des six jours était le monde du miracle et que le monde du septième jour est le monde de la nature. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Et par conséquent, ce qu'il nous faut comprendre, c'est la finalité de cela. Et au fond, du point de vue de la lecture que nous avons de ce problème maintenant, c'est que la Torah veut nous faire comprendre dans quel monde nous nous trouvons. Nous savons pas, informés par la foi, nous savons que c'est dans un monde qui a été créé, mais semble-t-il, la représentation que nous avons de ce monde nous renvoie à toute autre chose, le monde de la nature, celui qu'étudient les savants, celui dont parlent les philosophes en disant un monde réglé par les lois, les lois scientifiques. Alors je voudrais très, très rapidement essayer de tenter d'évacuer cette difficulté. Pour le croyant de la Bible, il n'y a pas de difficulté dans la mesure exacte où il sait quelle est l'identité réelle du monde où il se trouve et qui est simultanément et à la fois le monde des six jours, c'est-à-dire le monde où tout change, le monde qui porte l'évidence qu'il a un créateur, qu'il a un sujet, qu'il agit, et qui est le monde des miracles, et puis le monde du septième, qui est ce même monde des six jours, mais devenu la nature. Alors il y a là une analyse très, très brève qui nous éclairera notre problème, c'est que la Torah a voulu nous enseigner que ce que nous allons appeler les lois de la nature, dans la conceptualisation hébraïque traditionnelle, qui deviendra d'ailleurs le vocabulaire talmudique, ce que nous appelons les lois de la nature, c'est le résultat d'un processus d'habitude d'être. Le monde est devenu ce qu'il est au stade des lois de la nature. À partir du moment où il est devenu, alors il y a vraiment règles et lois. Mais il l'est devenu. C'est en quelque sorte le résultat d'une habitude. Une habitude dans le sens le plus absolu de ce terme. L'habitude en tant que quelle est la loi de l'être. L'être, dès qu'il est donné à la durée, l'être devient et il devient le résultat de ce qu'il s'est habitué d'être. Et par conséquent, nous avons là une définition de la loi de la nature qui est extrêmement importante. Elle n'est pas radicalement a priori de l'histoire du monde, elle est a posteriori d'une genèse, si j'ose dire embryonnaire, qui a été les six jours du commencement, monde que l'homme ne s'est jamais représenté, Aïn Loraata, il n'y avait pas d'homme dans les six jours, n'est-ce pas ? Et par conséquent, le monde de notre représentation humaine est celui du septième jour, et le monde dont la Torah nous parle pendant les six jours, nous ne nous le représentons pas avec nos sens. Il y a une possibilité de le connaître, mais pas par la représentation qui nous renvoie à l'ordre des lois qui régissent les phénomènes. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Alors, s'il en est ainsi, et c'est effectivement l'expression talmudique pour dire ce que nous appelons les lois de la nature, c'est « minhago shel olam ». Minhago shel olam, ou minhaga olam, ça veut dire l'habitude du monde, la manière que le monde a de se conduire. Mais cela renvoie à l'idée d'habitude. Vous savez qu'il y a tout un processus d'acquisition de l'habitude. Et pendant que l'habitude est acquise, eh bien, elle pourrait ne pas être acquise. C'est-à-dire, pendant que l'habitude est acquise, il y a liberté. Mais à partir du moment où l'habitude est acquise et elle est vraiment habitude, la liberté a disparu. Il y a conditionnement. C'est ce conditionnement à la limite que les philosophes nomment le déterminisme du monde. Mais selon la Torah, semble-t-il, c'est un déterminisme a posteriori. C'est un déterminisme réel. À partir du moment où l'habitude est acquise, elle est acquise. Mais c'est le résultat d'une habitude. Et pourquoi toute cette analyse? Est-ce que c'est clair jusque-là? Et je vous signalerai simplement une donnée psychologique qui peut faire identifier cela. Et je me souviens, je vous l'ai peut-être dit un jour à une autre occasion, c'est pour moi un souvenir d'enfance. J'ai encore ça dans ma mémoire d'enfant. Et je pense que vous avez eu tous des souvenirs analogues. Lorsque l'enfant, très jeune, commence à découvrir cet ordre des lois de la nature qui régissent les phénomènes, c'est-à-dire qu'il sort de la pensée magique et qu'il découvre la représentation positive des phénomènes, alors il y a étonnement. Peut-être que ça dépend d'un tempérament, mais je pense que tous les enfants ont ce tempérament-là, de s'étonner. Il y a étonnement, pourquoi les lois sont telles qu'elles sont et pas autres, hein, par exemple, je ne sais pas moi, pourquoi la... c'est un monde, c'est un fantastique, le monde de la correspondance entre les propriétés empiriques des phénomènes et la loi théorique qui en rend compte. C'est vraiment un monde fantastique. Pourquoi la chaleur coagule le blanc d'œuf alors qu'elle fait fondre la glace? C'est un monde enchanté, d'autre part, parce qu'il y a plein de qualités, tout ça. Imaginez le jaune d'œuf coagulé. Là. Mais, c'est-à-dire qu'il y a la découverte d'un ordre de choses, mais dans le fond de la conscience, rien ne dit que vraiment, a priori, il fallait que les choses soient comme elles sont. Elles auraient pu, peut-être, être autres. Alors, c'est ce qu'il faut découvrir. Elles auraient pu être autres. Régie, si vous voulez, par une cohérence, mais cette cohérence, si l'habitude que l'être a pris de lui-même dans les 6 jours avait été autre, eh bien l'apparence de notre représentation du monde serait autre, tout en étant réglée, déterminée, conditionnée, puisque habitude, c'est habitude. Mais je voulais indiquer ça, ce n'est pas une preuve philosophique que je vous donne là, simplement une indication d'ordre psychologique. Mais je crois que cet étonnement qu'il faut garder pour essayer. On ne peut pas comprendre sans s'étonner. Eh bien, ça c'est la méthode talmudique. Avant de chercher à comprendre, on se demande quelle était la question qui se posait. C'est-à-dire de quoi il faut s'étonner. Et Bemaïka Askinan, c'est ça. De quoi on s'occupe? Toujours d'un étonnement. Pas et comme par exemple, pour ceux qui ont étudié un peu Rashi ou Tosfot, Bitmia. Ça veut dire la question est toujours posée avec étonnement. Et c'est très étonnant. Il faut un peu rajeunir, vous ne voulez pas retomber à l'enfance, mais se rajeunir un peu. Et effectivement, pourquoi les lois jouent de la manière dont elles jouent d'après notre représentation empirique. Je me souviens comment la question s'était posée à moi, c'est resté dans ma mémoire, c'est un détail bizarre, je suis resté un jour très longtemps dans la contemplation d'un robinet. Et je me suis demandé, tout enfant, pourquoi l'eau coule dans le robinet et pas hors du robinet. Imaginez un monde où l'eau coulerait autour des tuyaux et pas dedans, et pourquoi pas, finalement. Enfin, c'est un peu l'exemple que je voulais vous donner de ce genre d'étonnement. Ça veut dire qu'il y a, au niveau, si vous voulez, des propriétés, un tel monde est pensable, eh bien, il serait cohérent, dans sa propre cohérence. Et il y a donc, si vous voulez, un étonnement qui s'attache à la manière concrète, en fin de compte, dont cette habitude du monde a fait que notre monde est ce qu'il est. En tout cas, pourquoi cette analyse? C'est parce que, il est bien clair d'ailleurs qu'elle découle du récit du premier chapitre. Pendant les 6 jours, le monde est façonné, il est plastique, si je veux dire en plasticité, et puis le 7e, tout est figé. Hok natan velo yavur. À partir du moment où le monde a été suffisamment préparé pour pouvoir être l'habitation de l'homme, Shabbat. Shabbat, ça veut dire le créateur cesse. Très exactement comme ça se passe dans une cuisine juive le vendredi soir. Enfin, jusqu'au vendredi soir, tout se prépare avec Hipazon. Et puis, dès que Hipazon, je ne sais pas comment dire, on est pressé. Précipitation. Vous n'avez pas remarqué que même quand c'est une journée d'hiver, d'été, ou le vendredi est très long, on est quand même juste 2 minutes avant encore d'être pressé. Mais dès que Shabbat entre, tout s'arrête et tout devient propre et tout devient. C'est plus la cuisine, c'est la salle à manger. Voilà. Mais c'est un peu l'histoire du monde que nous verrons tout à l'heure. Jusqu'à la fin du 6e jour, tout est comme ça embryonnaire et c'est pas propre une cuisine, même le vendredi. Voilà. Et puis finalement, subitement, tout devient Shabbat Malketa, tout devient royal, tout devient transfiguré. C'est ce moment précis où l'homme apparaît et le monde est figé dans ce 7e jour, dans l'état où il était à la fin du 6e. Vous avez compris l'idée. Alors donc, pourquoi cette analyse? C'est que s'il en est ainsi dans les définitions de la loi de la nature, alors la notion de miracle est intellectuellement pensable. Je dis bien intellectuellement. Je crois que c'est la seule analyse au bénéfice de laquelle cette notion de miracle ne serait pas contradictoire avec intellectuellement avec ce que d'autre part nous savons des lois qui régissent l'univers et de son déterminisme. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Parce que si c'est le résultat d'une habitude, le miracle est possible parce qu'il consiste, je ne dis pas il ne consiste plus que en, mais il consiste dans une suspension d'une habitude, et qu'une habitude peut être suspendue, alors qu'une loi a priori, ça n'a aucun sens qu'elle serait suspendue. Et ce qui gênerait le philosophe rationaliste dans ce problème, c'est la contradiction entre la notion de déterminisme, qui par définition ne peut pas avoir d'exception, quel que soit d'ailleurs le système de philosophie des sciences considéré finalement servir en même, que la loi soit pensée comme le résultat d'une statistique, que la loi soit pensée comme un ordre a priori, finalement, le problème reste là, il y aurait deux notions absolument contradictoires. Alors quelle est l'issue pour le philosophe? Eh bien, il ne croira pas au miracle, parce qu'il ne peut pas ne pas croire en sa raison. Et alors, que dit la Bible? Eh bien, il ne lit pas la Bible. Et s'il la lit, c'est comme s'il ne l'avait pas lu. Grosso modo, voilà la première retombée. Voilà. Et vous voyez pourquoi je disais tout au début que si vraiment le problème se pose à nous, c'est parce que ces récits sont dans la Bible. Parce que nous, en général, si nous avons expérience de miracle, c'est une expérience strictement subjective, individuelle, partielle et incommunicable, et que l'on comprend à la manière dont on la comprend, ou que parfois on ne la comprend pas du tout d'ailleurs, mais nous ne sommes plus, semble-t-il, dans ce temps du monde dont parlent les récits bibliques, où le miracle est visible à tous, compréhensible comme tel à tous, accepté comme tel par tous, et expérimentable finalement. Nous reviendrons à cette notion historique qui me semble être très importante pour l'explication de ce problème. Donc si la Torah a tenu à nous parler du Shabbat, c'était donc pour nous dévoiler l'identité réelle du monde dans lequel nous nous trouvons, et nous pouvons prendre cette introduction comme introduction à la notion de miracle. Et on peut s'attendre à ce que la Torah, sans briser sa propre cohérence, parlant de notre monde, parle du miracle, parce qu'elle parle d'un monde défini de manière telle que l'aménagement de la possibilité du miracle a été donné tout au début. Le fait que c'est le monde des six jours, mais devenu le monde du septième jour. Est-ce que c'est bien clair? Jusque-là, tout va bien. Et je crois que c'est bien la doctrine des Chachamim, de la tradition talmudique, je ne parle même pas de la tradition kabbaliste, puisque c'est l'expression dont ils se servent pour dire le déterminisme du monde. Minhago shel olam, le minhag ha'olam. Si vous voulez, on pourrait formuler cela de la manière suivante, de la manière qu'on dit que l'habitude est une seconde nature, alors il faudrait dire que la nature est une première habitude, si j'ose dire. Mais en prenant ce terme d'habitude dans son sens absolument fort. Il y a une correspondance d'ailleurs en sémantique entre la racine du mot latin d'où vient le mot habitude, qui est le terme de habeo, avoir. Vous voyez, c'est l'être au niveau de l'avoir, si j'ose dire. Enfin, c'est ce que nous avons dans notre être, les habitudes. C'est ce que notre être a. L'acquis est au niveau de l'avoir. Habeo, une habitude. Ce que j'ai. Ce que j'ai, ça veut dire ce que j'ai habitude d'avoir. Ça, c'est en latin. Parce qu'en hébreu, on ne sait pas dire j'ai. En hébreu, on dit yeshli, il y a à moi. L'hébreu ne possède rien, c'est au créateur. C'est yes, le latin dit habeo. C'est très différent. Sémantiquement, et c'est même pas il y a à moi, c'est il y a pour moi. Yes, li. On peut dire aussi il y a à moi si vous voulez. Du point de vue sémantique, semble-t-il, c'est cette même racine qui se retrouve en hébreu dans le verbe être. Là où le latin dit avoir, l'hébreu dit haveo, hevavhe, hove. C'est le même sémantisme que le verbe être. C'est-à-dire que l'habitude est une loi fondamentale de l'être et qui se constitue à travers toute cette acquisition d'habitude et devient ce qu'il devient. Le devenir, c'est le devenir à travers les habitudes. Et donc nous dirons que le monde est devenu ce qu'il est maintenant pour nous, mais il est devenu. Et que la Torah nous enseigne intentionnellement le fait que ceci, c'est le contenu même de la notion du Shabbat du Créateur. Le fait que Dieu cesse d'intervenir en tant que Créateur. Il faut ajouter tout de suite « en tant que Créateur ». Parce qu'en tant que providence de l'histoire, il n'y a pas eu cessation, il n'y a pas eu Shabbat. Il y a un midrash très précis sur ce verset, sur ces versets, qui dit Mimelechet Olamo Shabbat, Velo Mimelechet Tzadikim Urshaim. Ce qui se traduit en clair, que le Créateur a cessé son œuvre de Créateur, mais il n'a pas cessé son œuvre de maître de l'histoire, de providence à travers l'histoire. L'expression du Midrash, c'est les actions des méchants et les actions des justes, ça veut dire l'histoire, ce qu'il y a dans les journaux, l'histoire. Et maintenant, il nous faut comprendre quelle est la finalité de cette transformation du monde, le Olam HaBriya devenu le Olam HaAsiya, le monde de la création, qui est le monde des miracles, devenant le monde où nous agissons, le monde de l'action, le monde où l'homme va agir, et c'est-à-dire un monde stabilisé par les lois. Eh bien, là encore, la simple juxtaposition des versets nous indique quel est le sens. C'est dès que l'homme apparaît, que le monde entre dans l'état de ce Shabbat, et par conséquent, c'était pour rendre l'existence de l'homme possible que le monde devient ce qu'il est, c'est-à-dire la nature. La finalité du Shabbat du commencement, c'est la liberté de l'homme. Pour que l'homme puisse être libre, il faut que le monde soit garanti par des lois. C'est-à-dire que c'est le déterminisme du monde qui garantit la liberté de l'homme. C'est parce que l'histoire de l'homme va commencer et que cette histoire va être éprouvée et que pour cela, il faut que l'homme soit libre, que le monde entre dans l'état de Shabbat. Et en termes théologiques, c'est exactement ce que les théologiens disent en disant que le Dieu de la Bible se fait connaître d'abord comme Dieu caché. Que Dieu se cache dès que l'homme apparaît, afin que l'histoire de l'homme puisse commencer. Vous voyez donc dans quelle atmosphère, sur quel écran apparaissent les données de notre problème. Eh bien, immédiatement, nous avons là l'indication de la finalité du miracle. Et alors, et lorsque le miracle apparaît, cela signifie donc que c'est ce Shabbat du commencement qui est suspendu. Et si nous nous renseignons sur les lois du Shabbat, celles qui sont données à l'homme, hier nous avons parlé de la signification de la mitzvah du Shabbat comme témoignage. Et c'est le témoignage qu'il y a eu création et que cette création est en quelque sorte cachée derrière le monde du septième jour, derrière le monde du Shabbat, derrière la nature. Mais si nous nous renseignons concernant les lois du Shabbat, nous savons qu'il y a une clause très importante, c'est que s'il y a pikuach nefesh, c'est-à-dire s'il y a danger de la personne humaine, alors la loi, le Shabbat est suspendu. Et en quelque sorte, nous avons là la définition du miracle. Il y a miracle quand il y a pikuach nefesh. Ça veut dire, le jugement, est-ce qu'il y a pikuach nefesh, ne nous appartient pas, c'est le jugement du Créateur, mais apparaît là un critère d'explication qui est très éclairant, ça veut dire, de la même manière, que si nous, dans notre Shabbat, nous jugeons qu'il y a danger pour une personne humaine, il faut suspendre le Shabbat et faire un miracle. Faire un miracle, c'est quoi? Ça veut dire, alors qu'on s'était interdit d'intervenir dans le monde comme il est, comme Dieu s'interdit d'intervenir dans le monde pendant tout ce septième jour qui est l'histoire humaine, eh bien, on va quand même intervenir pour sauver une personne qui serait en danger. Et si donc Dieu juge que le projet de l'histoire, le tselemelotim, c'est-à-dire ce que l'homme doit devenir, et qu'il deviendra lors de l'engendrement messianique ultime, si le tselemelotim, si le projet du Créateur est en danger, il est de pikuach nefesh, littéralement, alors, si j'ose dire, kevyachol, Dieu suspend son Shabbat, il pratique, si j'ose dire, ce qu'on appelle un chilul Shabbat. Chaque fois qu'il y a intervention de Dieu par un miracle, c'est cette liberté et donc déterminisme de l'homme et déterminisme du monde qui est violée, qui est suspendue. En quelque sorte, Dieu est obligé de reprendre la garantie qu'il avait donnée à l'autonomie du monde pendant tout le temps de l'histoire. Et c'est toujours dans un contexte de catastrophe que se produit cette violation de la sainteté du Shabbat pour Dieu, si j'ose dire, de la Kedusha de Shabbat que Dieu s'est imposé par rapport au monde. C'est pourquoi, dans toute l'atmosphère de l'enseignement talmudique, on voit qu'on n'aime pas les hommes qui obligent Dieu à faire des miracles. Parce que ça l'oblige à violer le contrat de la création. Vous savez, là, dans toute l'atmosphère du Talmud, on félicite quelqu'un qui a été l'objet d'un miracle. Mais d'autre part, je ne veux pas dire qu'on le plaint, mais enfin, on le secoue un peu, en lui disant tu as tiré Dieu de son choc. Mais vous voyez quelles sont les implications de ce problème. C'est-à-dire, les miracles sont à la fois espérés et craints, parce que tant que ce n'est pas le temps de la transfiguration, tant que nous sommes dans le temps du septième jour, un miracle est dangereux, puisque c'est bouleversement, puisque c'est suspension. Alors il faut vraiment qu'il n'y ait plus quoi refaire. Alors c'est ça qui est clair, la cohérence du récit des miracles dans le récit biblique. C'est-à-dire que, d'une part, la notion elle-même peut être intégrée, parce qu'il s'agit de briser une habitude imposée, mais une habitude, et puis d'autre part, il y a un critère de finalité qui apparaît. Vous savez d'ailleurs, l'objectif du récit biblique, c'est pas premièrement de raconter des miracles, c'est de raconter l'histoire du monde, et à travers l'histoire du monde, l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, et je dirais même l'inverse, c'est de raconter l'histoire d'Israël, à travers l'histoire d'Israël, de raconter l'histoire du monde. Et de telle sorte de nous informer, de se contacter jusqu'à nous les stades préalables de cette tentative de promotion de la personne humaine dont nous avons parlé hier. Et il arrive que dans le courant du récit de cette histoire, alors la Torah nous raconte tel ou tel miracle qui sont en fait suspensions des lois de la nature, et c'est à ce niveau-là qu'ils nous ont été transmis comme tels. Il s'agissait de découvrir au bénéfice de quelle notion, de quels critères on pouvait récupérer la cohérence de ce récit par rapport, non pas tellement au monde des Hébreux, au monde, au temps où les Hébreux ont vécu les événements dont il est parlé, non pas par rapport au temps du monde qui était le temps de la prophétie et du miracle comme réalité quotidienne, si j'ose dire, mais par rapport à notre temps à nous, à un temps qui est, semble-t-il, un temps plus septième jour que cela pouvait être au commencement. Est-ce que c'est encore bien clair jusque-là? Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là que les controverses vont apparaître, et peut-être que c'est là que nous trouverons le critère d'explication de ces controverses. Et en effet, tout le contexte des interventions, donc miraculeuses, entre guillemets, de Dieu que nous trouvons dans le récit biblique, concerne ce risque de picoir confèche. Si le projet du Créateur, qui est en cours d'histoire, est en danger, alors Dieu intervient. Mais il faut vraiment donc qu'on soit arrivé au stade de picoir confèche, vraiment. Ok, ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'on a violé la loi. Ça veut dire qu'on l'accomplit. Il y a une clause de la loi. L'accomplissement en cas de picoir nefesh, c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Or, toutes ces notions-là, eh bien, nous sont données dans un ouvrage qui est cité d'ailleurs par le Maharal dans sa controverse avec Maïmonide. C'est ce fameux ouvrage que Dieu a fait un tnaï. Tnaï, ça veut dire une condition, un contrat. Un contrat. Que Dieu a fait un contrat avec l'œuvre du commencement. Et les termes sont bien précis. Et par exemple, il a fait un contrat avec la mer, que la mer, l'océan, enfin le yam, que la nature de la mer, dans le sens des lois de la nature, sera de ne pas s'ouvrir, sauf au cas où les Hébreux devraient sortir d'Égypte. Alors là, la mer était prévenue déjà depuis le sixième jour, que lorsque les Hébreux sortiront d'Égypte, elle aurait à souffrir. C'est cette notion du Tnaï. Oui. Je crois que on peut la formuler, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette catégorie, c'est une habitude qui est imposée au phénomène, mais une habitude, il faut que le phénomène sache, si j'ose dire, qu'une habitude peut être suspendue par un surcroît d'efforts de volonté. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Et par conséquent, nous avons là cette idée que toutes les possibilités du miracle sont en réalité déjà prévues dès le monde des six jours. Que le monde du septième jour, c'est un monde de la nature, et comme nous le dira le Maharal tout à l'heure, mais pas complètement de la nature. C'est un monde de la nature avec des conditions, avec une sorte de lien subtil, profond, avec le monde de toujours où tout est possible du point de vue de l'intervention de la volonté du créateur. Mais ce qui était important de découvrir, c'est qu'il ne s'agissait pas là d'un désordre brisant l'ordre du monde, mais d'un critère indiquant qu'il y a une finalité dans, en tout cas, dans la cohérence des récits bibliques du miracle. Nous ne parlons pas des miracles dont parlent les sorciers, ou dont parlerait telle ou telle autre doctrine, mais uniquement des miracles que raconte le récit biblique. Et on s'aperçoit, en fin de compte, en étudiant chaque cas, en poussant l'analyse jusqu'au bout, que apparaît toujours une constante,